Martin.
Il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec. Et la deuxième, c'est le succès.
14h, 15h, la voie est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour Baron, quoi.
Jamais on n'écrit pour être connu. J'ai autre chose. C'est pour parler, certainement. C'est pour raconter quelque chose à quelqu'un.
Nicolas Caro.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. À Roland-Garros, nous allons échanger quelques balles avec Bernard Werber dans un instant, qui publie ses mémoires, enfin. Et sa vie est au moins aussi captivante que ses romans, vous verrez. Visite de bibliothèque, évidemment, celle de Tahar Benjelloun aujourd'hui. Visite à la 25e heure aussi chez notre libraire Christophe Daniel. Et c'est Héloïse Goy qui jouera la balle de match avec sa chronique jeunesse. La Voix est libre, c'est parti. Premier chapitre, service Werber. Mémoire d'une fourmi, ça le fait rire Bernard Werber, mes jeux de mots avec le tennis. Bonjour Bernard.
Bonjour, mais c'est l'occasion de démarrer en effet un échange façon partie de tennis.
Vous jouez au tennis, vous ?
J'ai joué dans ma jeunesse et ça fait longtemps que je n'ai pas joué parce que j'ai un petit problème de genou comme tout le monde.
Alors, mémoire d'une fourmi. Évidemment, elles sont toujours là, les fourmis, l'animal totem de Bernard Werber. Vous publiez donc ces mémoires et ces secrets qui dévoilent des tours, en fait, vos tours de passe-passe aussi, un peu comme Stephen King dans son livre Écriture. On dit Stephen, en fait, quand on essaye de parler comme les Américains. Il faut dire Stephen et Stephen King.
Mais c'est ma référence, en effet. C'est ce livre qui m'a donné envie de faire Mémoire d'une fourmi.
Son livre Écriture, qui est mi-biographique, mi-masterclass, et c'est le livre de chevet de beaucoup d'écrivain, effectivement.
Alors, le mien aussi.
C'est un peu différent puisque chaque chapitre correspond à un arcane de tarot. D'abord, c'est quoi un arcane ? Parce que non seulement je ne connais pas le tarot divinatoire, mais je joue très mal aussi au tarot belote, là. À chaque fois, il faut que je reprenne les règles. Pourquoi vous l'avez chapitré comme ça ? Et au passage, c'est quoi la différence ?
Alors, la différence, c'est que le tarot, c'est en effet un art divinatoire. Le mot n'est pas bon. Je dirais c'est un système pour expliquer la vie. Ça, c'est le tarot de Marseille, avec les grandes figures, vous savez, la papesse, le pendu, la tour Dieu, des tas de personnages. Comme ça, chaque image représente en fait une petite scène de film, pratiquement. Et le tarot, dans les parties, c'est une prolongation de la belote, mais avec des atouts. Et c'est vrai que c'est le même mot, il aurait fallu trouver un autre mot.
Ça n'a rien à voir du tout, c'est même pas du tout les mêmes cartes.
Rien à voir, c'est même pas les mêmes cartes, exactement. Okay. Mais les arcanes de tarot, par contre, il y a un côté magique, et puis c'est branché sur une culture très ancienne qui démarre probablement en Antiquité.
Mais ça, bon, je voulais en parler tout à l'heure, mais parlons-en maintenant. Vous avez un côté hyper rationaliste, vous êtes ancien journaliste scientifique, vos livres sont aussi, il y a beaucoup de science-fiction et donc de science, mais vous avez aussi ce côté-là, tout un côté très fort chez vous d'ailleurs, hein, très spirituel et même tourné vers les médiums,
les rationnels.
Comment vous faites le lien ?
Eh ben, j'ai deux cerveaux, j'ai un cerveau gauche et un cerveau droit. Le gauche, c'est le sérieux, c'est le scientifique, et le droit, c'est le spirituel, tourné vers tout ce qui est incompréhensible et irrationnel. Mais je crois qu'on est complet que quand on a les deux cerveaux. Si vous n'avez que le monde rationnel, au bout d'un moment, on s'ennuie un peu. Si vous avez que le monde irrationnel, on est dans le délire. Donc j'aime bien développer un livre, je vais dire sérieux, et un livre un peu plus, comment dire, métaphysique. Voilà.
On va en reparler tout à l'heure, mais commençons par le commencement. Pourquoi vos mémoires maintenant ? Pourquoi pas avant ? Pourquoi pas plus tard ? Et pourquoi tout court ?
Parce que ma maman vient de mourir et elle avait Alzheimer et que je me suis dit, bon sang, si moi aussi j'ai Alzheimer, parce qu'il y a une dimension héréditaire, tout ce que j'ai vécu, tout ce qui m'a amené à écrire, tout ce que j'ai appris, tout ce savoir-faire aussi, va être perdu. Alors je me suis dit, tant pis, je sais que les livres autobiographiques ont moins de public que les romans, mais j'avais envie de poser ça comme un héritage, et aussi pour expliquer aux jeunes auteurs comment il faut s'y prendre, quelle rigueur, comment s'organiser, comment faire un plan, comment faire des personnages, comment s'inspirer de ces problèmes et de tout ce qui nous arrive dans notre vie, pour les transformer en contes, en histoires, en récits initiatiques.
Alors, ce sont des mémoires, mais ça commence comme un bon roman avec une bonne gifle au lecteur. La scène est magnifique, au point qu'on se dit, mais c'est pas possible, c'est une fiction. Vous nous racontez, vous aviez 14 ans.
Oui.
C'est le premier chapitre.
J'ai 14 ans et par un hasard bizarre, je me suis retrouvé... Non, j'étais en Corse en train de faire le tour de la Corse en vélo, mais je me suis retrouvé dans une nuit avec un homme qui m'a pris pour quelqu'un d'autre, qui m'a collé un revolver sur
racontez
la nuque.
Racontez pas la fin.
Non, mais qui m'a collé un revolver sur la nuque et qui m'a dit, je vais te tuer. Et à partir de là, je me suis dit, bon sang, j'ai 14 ans et j'ai rien fait de ma vie. Et est arrivé un instant de panique, si je m'en tire, il faut que je fasse plein de trucs.
Mais en fait, il vous a collé son flingue sur la nuque, mais juste avant, vous aviez découvert dans des toilettes où vous veniez recharger les gourdes pour les copains, du sang partout.
Ouais.
Et ce qui est génial, c'est que vous voyez du sang partout, mais vraiment partout, des flaques de sang, vous pataugez dedans et tout. Mais vous remplissez les gourdes quand même et vous faites demi-tour et vous repartez chez vos copains, quoi. Avant que le type vous chope.
C'est une bizarrerie de mon cerveau. C'est quand il y a des événements vraiment extraordinaires, je fais un petit pas de côté. D'abord, je ne suis plus dans mon corps et je regarde la scène comme si je tournais un film. Donc, quand je suis arrivé dans cette salle de bain où il y avait du sang partout, je me suis juste dit, tiens, il y a quelque chose de bizarre qui est en train de se passer. Et quand le type m'a collé un revolver sur la nuque, je me suis dit, c'est comme si j'étais dans un film, c'est pas réel. Et puis si c'est réel, ma vie va s'arrêter là. Et c'est pas grave, si ce n'est qu'il y a une urgence de, si je m'en tire, il faut que je fasse des trucs.
C'est ça, vous n'êtes pas vraiment terrifié. Vous dites juste, oh, j'ai 14 ans, c'est quand même dommage. C'est du gâchis, j'aurais pu faire plein de trucs, je pense.
C'est encore plus bizarre que ça, que je me rappelle, parce que du coup, j'ai revécu la scène pour écrire la mémoire. J'étais content en me disant, l'arme qui va me tuer a l'air plutôt jolie. Et j'ai regardé ce revolver, c'était ce revolver chromé, très grand. Et je m'étais dit, bon, tant qu'à se faire tuer, autant que ce ne soit pas un petit revolver de merde. Mais c'est étrange. Je crois vraiment qu'il y a je fais un saut. Dès qu'il se passe quelque chose de vraiment trop extraordinaire dans ma vie, je sors de ma peau.
D'ailleurs, vous vous regardez pendant que vous êtes braqué, vous êtes sorti de votre corps et vous regardez la scène, en fait.
Oui, et je ne suis ni en colère, ni dans la peur. Je suis juste dans la déception de ne pas avoir fait plus de choses. Et je crois que j'ai démarré le roman par ça, ça a été un déclic. Je me suis dit, si je m'en tire, il faut vraiment foncer. Et pas une seconde à perdre.
Mais ce n'est pas un souvenir induit que vous avez reconstruit. Ce n'est pas un rêve. Est-ce que vous en avez reparlé avec vos copains de l'époque?
Je ne les ai plus revus. C'est une colonie de vacances. Mais à un moment, je dis dans le roman qu'en effet, on réécrit en permanence son passé et ses souvenirs. Mais celui-là est quand même trop bizarre et il est trop, trop surprenant pour que j'ai pu l'inventer avec mon imaginaire.
Et alors, ce qui est génial aussi, c'est que quand vous revenez au camp de base, donc avec vos copains, avec les gourdes remplies quand même, personne ne vous croit. Parce que vous le racontez avec un tel flegme que personne ne vous croit. Et ensuite, il y a une copine qui arrive, qui a vu la scène, qui, elle, est bouleversée, en pleurs et tout, en train de crier, paniquer. Mais c'est la malédiction des gens comme vous, c'est-à-dire à la fois calme, flegmatique, mais aussi qui raconte des histoires sans arrêt.
Oui.
D'ailleurs, vos copains vous disent oui, bien sûr, c'est encore une de tes histoires, merci beaucoup.
C'est aussi à ce moment que j'ai compris qu'il ne suffit pas de vivre les choses. Il faut d'abord, un, savoir les raconter et deux, les raconter avec émotion. Et moi, j'ai su raconter la scène, j'ai dit, il y a un homme avec un revolver. Parce que j'étais sauvé quand même, si je suis là, j'étais sauvé par son fils qui a dit, tire pas papa, c'est pas lui. Et qui m'a dit, partez vite, je m'occupe de papa. Donc c'est ça qui m'a sauvé, donc je dois la vie à ce garçon. Mais quand j'ai raconté la scène, les gens, en effet, pensaient que je l'avais inventée et n'ont pas réagi. Et c'est l'autre personne, parce qu'elle était en crise d'hystérie, parce qu'elle a vu la scène aussi. Et en fait, ça explique beaucoup de choses. C'est les gens qui arrivent à capter l'émotion font bouger. Mais si vous n'avez pas l'émotion, si vous racontez les choses à plat, en fait, les gens ne vous croient pas, c'est tout. Donc, j'en ai déduit sur le coup, l'avenir est aux acteurs. C'est-à-dire ceux qui savent interpréter le personnage et pas forcément ceux qui vivent la situation. Mais au moment où je l'avais vécu, j'étais tellement peu incarné qu'en effet, j'ai raconté calmement. Et c'est une situation qu'il faut raconter en pure hystérie, ce qu'a fait cette jeune fille et qui a fait bouger le groupe.
La vie est un spectacle.
Europe 1, 14h, 15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre, toujours avec Bernard Werber, pour Mémoire d'une fourmi chez Albin Michel et toujours depuis le studio installé à Roland-Garros. Bernard Werber, c'est dans le titre et il faut qu'on y vienne. Les fourmis, roman culte, votre premier roman publié, immense succès. Vous nous racontez comment ça a commencé? Il y a eu 111 versions, je crois.
Ouais, ça a commencé quand j'étais enfant, que je restais dans le jardin de mes grands-parents, et vu que je m'ennuyais, je regardais les animaux. Et les seuls qui ne s'enfuient pas quand vous arrivez, ce sont les fourmis, tout simplement parce qu'il y a leur ville qui est là. Donc quand vous avez trouvé une ville, je restais des heures à l'observer. Et je me suis retrouvé avec une fourmi sur un doigt, en train de la regarder. Elle me regardait aussi, enfin, elle agitait les antennes. Et je me suis dit, c'est comme une rencontre entre deux civilisations. À partir de là, j'ai commencé à les mettre dans des pots, puis à décrire ce qu'il y avait dans le pot, à écrire des petites histoires. Puis c'est devenu un scénario de bande dessinée quand j'ai créé un fanzine. Et à partir de 16 ans, je suis entré dans une discipline tous les jours, 4h30, je fais 10 pages. Et j'ai commencé à écrire ce récit sur les fourmis, que j'ai en effet réécrit un nombre incalculable de fois. En gros, chaque fois, je recommençais à zéro, chaque fois que je m'apercevais que ça ne fonctionnait pas. Mais la dernière version, celle que j'ai amenée à l'éditeur, faisait plus de 1500 pages.
Avant ça, vous étiez journaliste scientifique. Et à quel moment vous vous dites, non, finalement, il faut que je sois écrivain et je vais publier ce roman sur les fourmis?
Déjà au moment où j'ai été viré donc du Nouvel Obs, donc il y avait j'avais plus de boulot et ça faisait 6 ans que je présentais le manuscrit Les Fourmis aux éditeurs qui ne me disaient que ça les intéressait pas.
Et surtout parce que ça rentre dans aucune case.
Voilà, ça rentre dans aucune case et puis c'est pas un polar, c'est pas historique, c'est pas autobiographique non plus. Et
pour un Français.
Pour un Français, c'est vrai.
Parce que pour un Américain, c'est plutôt simple de publier un livre comme ça.
Et le livre avait quand même aussi un handicap, c'est 1500 pages. 1500 pages en France, dans les grandes sagas, il n'y a pas de livre de 1500 pages de saga, il y en a très peu. Et a fortiori sur un sujet comme les fourmis, donc je comprends très bien que ça a été un rejet automatique, y compris de mon éditeur actuel qui m'a envoyé 3 lettres de refus que j'ai gardées. Mais parce qu'on tombe sur les services de découverte des manuscrits qui, en général, ils recherchent les prix littéraires, ils ne recherchent pas les bizarreries. Et j'ai eu la chance de rencontrer mon éditeur actuel, Richard Ducousset, qui m'a dit « Ouais, on va tenter le coup sur ce sujet bizarre. »
Mais pas avec 1500 pages.
Mais pas avec 1500 pages. Il m'a demandé de ramener ça à 350, ce qui fait que la version qui est publiée, qu'on trouve dans le commerce, est la version... il y a Director Cut et puis il y a le Producteur Cut. Donc c'est la version complètement réduite. Et peut-être que ça, le roman y a beaucoup gagné. Notamment, il y avait 8 batailles, il n'y en a plus qu'une. Il y avait toute une saga de description du monde des insectes. Évidemment, j'ai taillé dans l'art. Et c'est peut-être pour ça que le roman marche bien, c'est que ça va vite. Parce que c'est une réduction d'un gros projet.
C'était quelle année ?
Alors, le livre a été publié en 1991. Mon éditeur m'a dit on y va en 1990.
Moi, je l'ai lu à 14 ans, donc en 96. Ouais. Et c'était déjà un énorme succès. C'est mon frère qui me l'avait donné, mais tout le monde connaissait Les Fourmis. Enfin, c'était déjà un classique au bout de 4 ans. Mais c'était pas... Vous n'avez pas vendu d'un seul coup
non.
Le million d'exemplaires qui se sont vendus ensuite. Ça a été un long seller.
Je dois dire merci aussi, en dehors de mon éditeur que je citais tout à l'heure, Richard Ducousset, je dois dire merci aussi au Livre de Poche, parce que le Livre de Poche, un avantage, c'est que ça installe le livre dans le temps. En gros, quand vous sortez un livre, vous avez un mois pour décoller, au mieux. Et si au bout d'un mois, vous n'avez pas été repéré par les libraires ou par les journalistes, ben vous partez à la pâte à papier. Et quand vous êtes en Livre de Poche, par contre, c'est un long seller, c'est-à-dire le livre est installé et là, le bouche à bouche peut exister. Et
le bouche à oreille, mais c'est un beau lapsus.
Oui, parce que c'est un acte d'amour. D'ailleurs, vous parlez de votre frère qui vous a initié au livre. Je me dis, quelque part, je dois lui dire merci à lui aussi, puisque c'est peut-être pour ça que je suis là, parce qu'il vous a fait lire le livre.
Sans doute.
Mais je crois beaucoup au bouche à oreille, un peu au bouche à bouche aussi, mais comme moyen de faire découvrir des livres. Enfin, moi, la plupart des livres que j'ai aimés, je les ai découverts parce qu'on m'a dit de la même manière, lis ça, tu vas voir, ça va te plaire.
Mais est-ce que vous avez senti le succès qui montait, même si ça a été progressif et pas comme on le croit, une explosion d'un seul coup? Est-ce que vous avez senti à un moment très précis, je ne sais pas, dans la rue ou dans des rencontres, que vous vous êtes dit, tiens,
non.
Ça devient quand même un truc?
Alors, non. Et je crois qu'il m'a été épargné l'épreuve du succès. Et tant mieux, parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui ont des montées rapides et des descentes tout aussi rapides. Moi, c'était très lent, très progressif. C'est juste à un moment, je me suis aperçu que ça me permettait de vivre. C'est-à-dire, j'ai gagné suffisamment d'argent pour que ce soit mon unique activité. Donc, c'est quand j'ai vu ça sur ma feuille d'impôt, je me suis dit, bon, bah, je continue tant que ça marche. Voilà. Mais même actuellement, je me perçois comme un artisan. Il faut voir aussi une chose, c'est que j'ai jamais voulu être un best-seller. Moi, j'ai voulu juste être publié. Être publié, c'était la finalité. C'est mon éditeur qui s'est dit, ça peut faire un best-seller. Donc, vu que c'est pas... J'avais pas un projet ni de richesse, ni de célébrité là-dessus. J'avais juste un projet de... Pourvu que les gens s'intéressent aux fourmis à travers mon livre, quelque part, j'étais épargné de cette émotion, peut-être que j'aurais mal géré du succès.
La première fois que je vous ai rencontré, c'était chez vous. Je venais visiter votre bibliothèque, c'était il y a 5-6 ans. Ouais. Et quand je suis arrivé, il y avait... Non, ce n'était même pas ça, ce n'était même pas une bibliothèque. Je venais vous interroger sur Philip K. Dick pour un sujet. Et il y avait une caméra avec 3 ou 4 personnes. Et vous m'avez dit, non, ça c'est rien, c'est la télévision coréenne qui me suit pendant une semaine. Et... Ah oui, j'ai compris ce jour-là que vous étiez en fait une énorme célébrité en Corée et en Russie. Ouais. Vous y allez souvent. Et est-ce que vous avez une explication ? Pourquoi la Corée ? Pourquoi la Russie ?
Alors, la Corée, parce qu'à l'époque, il y a un éditeur, c'est toujours pareil, qui a dit... c'est un éditeur qui était en train de faire faillite. Et il a dit, je fais tapis sur ce bouquin. C'est-à-dire, je mise tout ce que j'ai, mes dernières cartouches sur ce livre. Et ça a été jackpot. Il est devenu, de boîte sur le point d'être en faillite, il est devenu numéro 1. À partir de là, il a communiqué énormément. Il faut vraiment voir que dans le succès d'un livre, il n'y a pas que le talent de l'auteur, il y a vraiment la croyance d'un éditeur. Et donc, j'ai eu cette croyance en France avec Albin Michel et j'ai eu cette croyance en Corée. Et l'éditeur en Corée a fait tellement d'efforts de communication et de pub que quand je suis arrivé, en effet, il y avait déjà le public était prêt. Et il faut voir aussi une autre chose, c'est que la Corée est un pays qui sort de la dictature, qui sort d'un passé terrible. Et ils ont envie de quelque chose de neuf. Et j'étais en train de leur parler du futur. Et ils en ont marre qu'on leur parle de leur passé, qui est vraiment douloureux. Et ils ont envie de se considérer comme une nation qui va en avant. Et d'ailleurs, on voit leur succès, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans les technologies. Ils se donnent un mal fou pour être les meilleurs. Et ils sont intéressés par tout ce qui est nouveau. Donc à partir de là, ils n'ont pas, comme en France, ce préjugé sur la science-fiction comme étant quelque chose qui touche que les jeunes. Pour eux, la science-fiction, c'est quelque chose de sérieux. Et pareil en Russie.
C'est vrai, ça. Je disais, je l'avais lu à 14 ans, les fourmis, mais on peut très bien le lire à 25, 40 ou 80 ans. Mais c'est vrai que c'est quand même un roman générationnel d'ado, mais vous n'avez jamais été considéré comme un écrivain jeunesse. C'est un petit miracle, ça. Vous auriez pu avoir le syndrome Jules Verne.
Ah oui, Jules Verne a beaucoup souffert d'être considéré comme un auteur jeunesse, précisément parce qu'il faisait la science-fiction. Je crois que, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, on ne sait pas trop où me mettre, et moi-même, je ne sais pas trop où me mettre. Donc, je fais les bouquins, au bout d'un moment, je deviens un genre à moi tout seul. Mais en tout cas, je sais que dans le monde de la science-fiction, vu que je n'ai pas les repères, je n'ai pas les extraterrestres, les fusées, les lasers, je ne suis pas considéré comme faisant partie de leur club. Donc, je suis hors club, je suis hors système, tous les systèmes.
Non, vous êtes club européen quand même, restez oui. Là.
La voix est libre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre, toujours avec Bernard Werber et toujours dans le studio installé au cœur de Roland-Garros. Nous recevons Bernard Werber, non pas pour un roman cette fois, mais pour Mémoire d'une fourmi, les mémoires, les secrets, la masterclass aussi de Bernard Werber. Ce sont des mémoires, donc vous racontez votre vie professionnelle notamment, parfois un peu plus personnelle, mais vous n'allez pas non plus dans votre intimité. Pas tellement.
Je suis pas sûr que ça intéresse vraiment les
gens. Je sais pas, mais parfois il y a des mémoires où voilà, on ouvre la porte, y compris de la chambre et tout quoi.
Le livre, enfin, Mémoire d'une fourmi, faisait 600 pages. À un moment, mon éditeur m'a dit, tu me vires 200 pages. Donc, j'ai viré tout ce qui pouvait être non indispensable. Et il y a peut-être des choses de mon intimité, vous avez raison, qui auraient peut-être pu intéresser les lecteurs, je ne saurais jamais. Mais la version, j'ai essayé de foncer vers les choses les plus surprenantes. Et en même temps, comme vous disiez, la partie masterclass, c'est-à-dire les choses... Le savoir-faire que j'ai envie de transmettre et qui puisse être utile au lecteur, que le lecteur se dise pas, tiens, c'est la vie de Bernard Werber, mais qu'il se dise, tiens, c'est le moyen pour moi d'écrire des livres, de m'exprimer, d'utiliser peut-être des épreuves de ma vie pour en faire un récit.
Alors, je dis que vous ne parlez pas de votre intimité, mais d'une certaine manière, un peu, puisque vous parlez de votre spiritualité. Oui. Et vous nous parlez notamment de Barnabé. Comment va-t-il ?
C'est une rencontre que j'ai faite avec une médium qui m'a dit, voilà, votre ange gardien s'appelle Barnabé. À partir de là, je me suis dit, bon, on va prendre l'hypothèse que j'ai un ange gardien, que quelqu'un qui me donne un coup de main, peut-être celui qui m'a sauvé de la balle en Corse quand j'avais le revolver sur la nuque. Et je crois que n'importe qui peut tout d'un coup se dire, prenons l'hypothèse que j'ai un ange gardien, quelqu'un qui me donne un coup de main. Et la vie paraît tout d'un coup différente. C'est-à-dire qu'on se sent moins seul, et on se dit peut-être qu'il y a des trucs bien qui m'arrivent qui sont le travail de quelqu'un d'extérieur. Et on rentre dans une notion intéressante, c'est la gratitude. C'est-à-dire quand vous avez quelque chose de bien, au lieu de vous dire c'est parce que je suis fort, vous dites c'est peut-être parce qu'il y a quelqu'un à l'extérieur, une entité invisible qui a agi. J'aime bien cette idée. Et le grand avantage, quand je suis romancier, je ne suis pas obligé de le prouver. C'est le pari de Pascal. Vous savez, on ne pourra jamais savoir s'il y a Dieu, on ne pourra jamais savoir si on est un ange gardien. On peut faire le pari de, imaginons qu'il est là et imaginons qu'on fonctionne avec lui. Donc déjà, savoir que par moment, il nous envoie des signes, donc être attentif. Et la deuxième notion, c'est quand il arrive quelque chose de bien, ne pas oublier de dire merci.
Alors, vous parlez aussi de votre œuvre et de certains de vos romans, pas tous, mais ça m'a intéressé parce que j'avais lu les Thanatonautes ado aussi. Les Thanatonautes, je rappelle, hein, ce sont des voyageurs dans l'au-delà. C'est des scientifiques qui ont trouvé un moyen de visiter l'au-delà sans tout à fait mourir. Et moi, ça m'avait beaucoup rassuré. Je me rappelle ce roman, je l'avais trouvé génial, mais il y avait aussi ce côté... Bon, bah, c'est une proposition. Je sais bien que c'est pas un prophète ni rien, mais ça a l'air plausible et vraisemblable. C'est pas mal, ça me rassure. Si c'est ça, ça va. Enfin, bon, il y a des problèmes aussi. Mais et ce qui est intéressant, c'est que dans vos mémoires, vous dites que c'est précisément pour ça que vous l'avez écrit, finalement. C'était pour contrer la mort, d'une certaine manière.
Quand j'ai fini d'écrire les Thanatonautes, je me suis dit, OK, je vais peut-être mourir, mais ça se peut que ça soit pas une expérience aussi horrible qu'on le dit partout. Ça se peut que ça soit juste une phase de transition pour aller dans un autre système. Mais oui, j'ai écrit ce livre pour me rassurer, pour plus avoir peur de la mort, et aussi pour retrouver tout ce qui a été écrit dessus, notamment dans le livre des morts tibétains, le livre des morts égyptiens, qui font des vraies mises en scène d'un monde. C'est-à-dire, c'est pas juste le diable, l'enfer, le bon Dieu ou Saint-Pierre, ça devient un continent comme l'Amérique, comme devait être l'Amérique pour Christophe Colomb, avec des différents territoires à découvrir. Les différentes épreuves à passer, comme c'est fait notamment dans le livre des morts égyptiens. Donc c'était une manière de remettre en scène la mort d'une manière laïque, spirituelle et non angoissante.
J'ai une question impossible, donc vous n'êtes pas obligé de répondre, parce que c'est un peu comme vous demander de choisir entre vos enfants. Mais c'est quoi le roman dont vous êtes le plus fier? Un seul?
Si, les Thanatonautes.
Les Thanatonautes? Ah oui?
Les Thanatonautes d'abord, parce que c'est celui qui a eu... le plus grand échec commercial.
C'est ça, c'est pour ça que ça m'étonne.
C'est un peu comme un enfant boiteux, vous dites, oh là là, il va falloir que je m'en occupe un peu plus que les autres.
C'est vos préférés aussi.
Ah oui, vous aussi. Je crois que les Thanatonautes, qui, au moment de la sortie, donc, ils ont dû en vendre un quart de ce qu'ils avaient imprimé, donc le reste est parti au pilon. Et puis, j'ai jamais eu d'interview. J'ai jamais fait d'interview sur les Thanatonautes. J'en fais maintenant.
J'étais pas là. Après, voilà. Pas encore dans le. Dans
Entre nous, j'aurais préféré que vous naissiez un peu plus tôt et qu'on se rencontre avant. Mais les Thanatonautes a aussi une particularité, c'est que j'ai écrit certains passages en écriture automatique. Ce qui fait qu'il y a des choses que, au moment où je les écrivais, je ne les comprenais pas. Et je les comprends maintenant. Alors, ça peut paraître bizarre qu'un auteur comprenne son propre livre 20 ans après ou 30 ans après. Mais c'est comme si c'était un enfant boiteux, mais surdoué en même temps. Donc voilà, j'ai un rapport bizarre à ce livre.
Il faut qu'on dise un mot, parce que normalement, cette troisième partie, c'est la cuisine de l'écrivain. On ouvre la porte des coulisses pour voir comment il travaille. Mais bon, on en a déjà un peu parlé. Mais vous êtes intéressant là-dessus, parce que vous avez une discipline très forte. Alors que la plupart des écrivains me disent, ça dépend des jours. Parfois, c'est comme ci, parfois, c'est comme ça. Vous, c'est tous les jours.
Oui, tous les jours, 8h, midi et demi. Et c'est un muscle. Je crois que l'imaginaire est un muscle qui s'entretient. Et au bout d'un moment, c'est un rendez-vous. C'est comme si vous regardez une série, si ce n'est qu'au lieu de la subir, vous la créez. Et au bout d'un moment aussi, il y a une amitié qui se crée avec les personnages. On les retrouve. Vous qui êtes aussi auteur, vous devez le savoir. On les retrouve et on les aime. Et il y a un moment où c'est un repère. Voilà, le travail devient. C'est plus un travail d'ailleurs. C'est un plaisir. C'est un rendez-vous de plaisir matinal.
Mais quand vous êtes sec. Quand il n'y a rien. C'est jamais arrivé.
J'ai jamais eu l'angoisse de la page blanche. Mon problème, c'est que j'ai trop d'idées et il faut que je les coupe. D'ailleurs, la plupart de mes romans, je coupe au final 20% du roman parce que je m'amuse tellement, j'ajoute des scènes aux scènes, il y en a trop. Donc j'ai besoin d'un regard extérieur qui me dise, attends, vas-y, coupe. J'ai besoin d'une sorte de jardinier extérieur qui me dise, vas-y, ça, c'est pas indispensable.
Mais au moment de l'écriture, vous avez la technique de l'écrivain qui corrige en même temps qu'il écrit, c'est-à-dire une phrase, je reviens, hop, je
non, 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 non.
Ou alors vous écrivez comme ça vient et on verra après.
Non seulement j'écris comme ça vient, mais j'écris pratiquement à la vitesse où je parle. Mmh. peut-être même plus vite. J'écris plus vite que je pars, ce qui veut dire que je fonce, c'est vraiment un cheval qui galope, et je fais ça. C'est un acte de joie pure. Je crois qu'il faut que l'écrivain écrive dans la joie pour que le lecteur lise dans la joie. Je ne crois pas à l'écrivain qui souffre.
Et vous êtes très concentré. Je sais que vous écrivez dans un bistrot.
Oui.
Est-ce que quand le serveur vous tape sur l'épaule, savoir si vous voulez un autre café, vous sursautez, ou alors vous êtes très éveillé en fait à ce qui se passe autour de vous au moment où vous écrivez, ou est-ce que vous êtes comme plongé dans la page?
Alors en fait, il y a un temps de plongée, pour prendre votre terme, c'est-à-dire qu'au début, disons vers 9h, si on me tape sur l'épaule, je vais pouvoir discuter, mais c'est vers 11h, entre 11h et 11h30, là je suis comme si je dormais, c'est-à-dire je suis vraiment dans l'action avec mes personnages, et là si quelqu'un me tape sur l'épaule, je vais sursauter, et ça va être presque douloureux. Mais en général, mon entourage... D'abord, j'ai un café qui est très peu fréquenté. Je suis pratiquement seul dans la salle. J'ai choisi pour ça. Il n'y a pas de musique. Et ils savent, ils me respectent mon petit coin dans lequel on me fout la paix. De temps en temps, il y a des gens qui arrivent pour me demander des dédicaces, qui le font gentiment. Et quand ils voient que je suis plongé dans l'écriture, ils ne me dérangent plus.
Vous commandez quoi?
À boire...
Entre 8h et midi et demi.
Une orange pressée, du thé vert et un croissant. Et si jamais la scène me plaît vraiment, je prends un deuxième croissant. Je peux vous expliquer la chose, c'est que je crois que, la scène, quand elle m'amuse vraiment, j'ai besoin de sucre pour pouvoir la décrire, et donc je trouve les sucres. Puis c'est assez agréable de mêler le plaisir de manger un croissant et le plaisir d'être dans le film, quoi. C'est un peu comme ça, ces gens qui mangent des pop-corns en regardant des films.
Europe 1, 14h, 15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue toujours à Roland-Garros, match en double, puisque Bernard Werber est toujours là et nous partons chez Tahar Ben Jelloun. L'académicien Goncourt publie La couleur des mots aux éditions L'Iconoclaste. C'était l'occasion de voir de quel livre il se chauffe. Bonjour Tahar Ben Jelloun.
Bonjour Nicolas.
Merci de nous recevoir chez vous.
Ben, bienvenue.
On est dans
bienvenue
une toute petite maison, mais vous m'avez dit qu'il y a quand même deux étages.
Oui, elle est sur trois niveaux. Et les livres, les principaux livres sont là, sont au premier niveau.
Là, on est dans le salon, il y a des livres partout, il y a un mur de livres gigantesque. Et puis à droite, il y a toute une pile de livres. Vous m'avez dit avant qu'on allume les micros que c'était les livres que vous recevez en ce moment, ça, depuis la rentrée de janvier.
Oui, il y a les livres que je reçois et qui sont passés là. Les livres que j'ai déjà soit lu, soit que j'aime, qui sont là. Évidemment, je n'ai pas lu toute la pléiade. Personne n'a eu ce privilège.
Oui, parce qu'il y a 150 volumes de la pléiade, là.
Il y en a pas mal. Mais en fait, la pléiade, je ne la lis pas du tout comme ça, mais je la lis dans ce qu'on appelle dans les mousselines. Je vais vous montrer.
Oui, c'est les pléiades avant la couverture dure. Non,
parce que c'est plus malléable. C'est plus...
C'est les épreuves de la Pléiade, quoi. Il y a un vieux volume de Mallarmé, là.
Ah oui, ça, j'achète beaucoup. J'achète... Cette collection n'existe plus. C'est de chez Seghers, vous savez, poète d'aujourd'hui. J'aime beaucoup. Alors, à chaque fois que j'en trouve dans un marché opus, j'en achète. Il y a quelques-uns comme ça.
Et c'est quoi votre rapport aux grands poètes? Ce sont des amis, ce sont des maîtres
C'est des copains, c'est des copains. Non, mais c'est des copains qui sont intimidants, bien sûr. Mais franchement, Aragon, il est le plus fort, hein, il est très fort.
Et vous en connaissez par cœur?
Non, par cœur, je suis incapable de connaître. Même mes poèmes, je ne les connais pas. Non, je ne connais pas par cœur. Mais je lis, je relis. Et ça me fait du bien. Et parfois, alors ce qui est encore mieux, c'est lorsque j'écoute Léo Ferré ou Jean Ferrat chanter des poètes, ou Reggiani, ou Jacques Brel. Jacques Brel, c'est un poète en lui-même, c'est fantastique. Ferré, c'est un poète, mais pas toujours convaincant. Mais Brel, pour moi, c'est un grand poète.
Et est-ce que quand vous écrivez, vous vous comparez, est-ce que vous vous dites, ou quand vous lisez, vous vous dites, ah tiens, ça j'aurais dû y penser, j'aurais dû le faire?
Non, parce que quand j'écris, j'écris pas quand je veux, j'écris quand ça devient une nécessité. C'est-à-dire que pour écrire, il faut avoir une raison impérieuse, une nécessité absolue. Il y a 2 ans, j'étais dans un état amoureux et la saison amoureuse m'a poussé à écrire et quand cet amour s'est arrêté, la poésie s'est arrêtée aussi. Ah ben oui, l'amour amène la poésie, mais la poésie n'amène pas l'amour.
Mais la souffrance d'une rupture, ça peut amener de la poésie aussi.
Oui, mais j'aime pas beaucoup ça. J'aime pas m'étaler sur la souffrance. J'écris plutôt les belles choses, la lumière d'une rencontre, la découverte, la plénitude, l'émerveillement, tout ce qui est beau. Mmh. Après, quand ça s'arrête, bon, pas la peine de chialer. Hein. C'est pas bon. Les poètes ne chialent pas. Même si Jacques Brel dit « un homme qui pleure pas n'est pas un homme ».
Il y a beaucoup de romans, on l'a dit, il y a beaucoup de poésie, il y a beaucoup de livres sur le Coran et différentes éditions du Coran.
Oui.
Est-ce que vous le lisez régulièrement ? Qu'est-ce que vous y cherchez ? Est-ce que c'est plus de l'exégèse ?
Alors, d'abord, il y a ces trois volumes, le Coran des historiens, qui pour moi, ce qui a été fait de mieux jusqu'à présent sur la lecture analytique du Coran par une trentaine d'historiens de toutes nationalités, et qui est un livre révolutionnaire parce qu'il révèle des choses fabuleuses. Et il explique verset par verset le Coran d'une manière laïque et pas religieuse. Et ça, c'est formidable. Ensuite, il y a la traduction du Coran par Jean Grosjean, bon, qui est une traduction parmi d'autres. Et puis, il y a d'autres traductions. Enfin, je ne sais plus où elles sont. Enfin, elles sont éparpillées. Mais j'aime bien la traduction de la Pléiade de Madame... Alors là, j'ai oublié son nom. Mais je lis beaucoup les traductions du Coran pour voir un peu la manière la plus juste et la plus poétique, parce que c'est un texte très poétique en arabe. Et je l'ai appris par cœur quand j'étais gamin. Pas tout le Coran, bien sûr, mais des sourates, des chapitres. Et ça m'est resté jusqu'à maintenant, d'ailleurs. Parfois, ça me revient.
J'étais sûr de le trouver là. Je ne sais pas pourquoi. Vous allez peut-être pouvoir me l'expliquer. Il y a « 100 ans de solitude » de Garcia Marquez. Ah, pourquoi j'étais sûr de le trouver chez vous?
Mais parce que c'était un livre fondamental. Ça m'a été offert par un ami espagnol. Mais ça, c'est la version de poche qui est très petite. Il m'a été offert par un ami espagnol à l'époque de sa sortie. Il m'avait dit, lis ça, tu verras, c'est formidable. Et à l'époque, j'avais du mal avec ce livre. Je l'ai lu plus tard. Et évidemment, c'était un livre qui a libéré mon imaginaire. Mais après ça, j'ai lu un autre livre d'un Mexicain qui s'appelle Pedro Páramo, enfin Juan Rulfo, qui a écrit un livre qui s'appelle Pedro Páramo, qui est un tout petit livre, qui est une merveille sur justement cet univers plus que merveilleux qu'a inauguré Garcia Marquez, mais que Marquez a lu Pedro Páramo avant, il a été influencé par lui.
Mais Garcia Marquez, c'est incroyable ce qu'il a influencé aussi, notamment avec le réalisme magique. Il a des héritiers partout.
Il a influencé beaucoup de
monde. En France, on a le sud-américain Miguel Bonnefoy qui s'en réclame.
Tout le monde. Enfin, tous ceux qui l'ont lu. D'ailleurs, pas que lui, d'ailleurs. Il y a Onetti, il y a même Jorge Amado, le Brésilien, c'est bien ce qu'il fait. Et puis, il y a Sabato, l'Argentin, et Borges. Pour moi, Borges, c'est un sommet de la littérature, de la création, de l'imaginaire, de la poésie et du conte. Un très grand conteur. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ?
Est-ce que vous nous liriez L'Incipit de Garcia Marquez ?
Il me faut des lunettes.
100 ans de solitude. Ou alors je vais le faire moi, sinon.
Hein ?
Je le fais moi, sinon, si vous voulez. Je vous lis L'Incipit de Garcia Marquez, qui est quand même magnifique. Ça compte, ça. Bien des années plus tard, face au peloton d'exécution, le colonel Aureliano Buendia devait se rappeler ce lointain après-midi au cours duquel son père l'emmena faire connaissance avec la glace. C'est incroyable, la force de Incipit, quand même.
La première phrase est terrible.
Vous, ça vous travaille quand vous écrivez un roman ? Vous revenez dessus, ça commence par là ?
C'est très important. Et je ne la travaille pas. elle vient ou elle ne vient pas. Si elle ne vient pas, ce n'est pas la peine. Il faut faire autre chose.
Il faut faire un autre roman ou alors,
C'est important de... la première phrase, c'est quand vous tendez la main à quelqu'un pour lui dire « Viens chez moi, je vais te raconter une histoire. » Vous lui prenez la main et vous la gardez. Et si ça n'intéresse pas, sa main va glisser petit à petit, il va s'en aller. Donc, c'est ce que m'avait dit Jean Genet. Il me dit, un lecteur, il faut le garder. Il faut pas l'emmerder, il faut pas l'ennuyer. Donc, il faut toujours penser à lui.
C'est ce que m'avait dit Jean Genet. Vous vous rendez compte qu'il faut que je rebondisse sur cette phrase, quand même.
Ah oui.
C'était quoi votre rapport avec Jean Genet ?
Oh, c'était une amitié très, très spéciale qui a duré une dizaine d'années. Mais... il n'aimait pas du tout quand on parle littérature. Mais il me demandait de lire ce que j'écrivais. Il me faisait des remarques. Et c'est lui qui m'a dit un jour, ça, n'oublie jamais ça, n'oublie jamais le lecteur. Parce que le lecteur, il n'est pas obligé de te lire. Et il m'a dit, moi, j'ai écrit pour sortir de prison. Donc je faisais très attention. Il a raison. Ce qu'il a écrit, c'est sublime. Parce qu'il a fait tellement attention. Il faisait attention,
mais c'était subversif.
Une langue classique, en plus. Lui, le révolté, le voyou, le rebelle, il a traité la langue française avec respect, avec religion.
Pour la langue, mais pour le contenu, c'était très subversif.
Bien sûr, oh là là.
Et comment vous l'avez rencontré ?
C'est lui qui m'a rencontré. C'est lui qui m'a rencontré. Il a un jour écrit un... écrit un article dans l'Huma sur mon premier roman.
Ah ouais.
Et il s'adressait à Sartre pour lui dire il y avait mon roman et d'autres livres. Il disait à Sartre ces voix que vous n'avez pas entendues, elles sont là, elles sont, etc. Et moi, je ne lisais pas l'Huma à l'époque, c'est en 73. Et un ami libraire m'appelle, me dit écoute, il y a un article fabuleux sur toi. Ah, ben, c'est pas possible. Alors, je lui envoie un petit mot de remerciement chez Gallimard. Et bien sûr, je laissais mon adresse. Et il m'appelle. À l'époque, j'habitais à la Cité universitaire internationale. Et il m'appelle un matin et me dit, je suis Jean Genet, je voudrais vous rencontrer. J'ai dit, c'est le monde à l'envers.
C'était lequel, votre premier roman, en 73 ?
Arruda.
C'était Arruda, oui. Hop. Ouais. Est-ce qu'on peut lire la première page du premier roman de Tahar Benjelloun ?
Oui, l'incipit, il est pas mal, vous allez
voir.
Je
la cherche.
C'est tout un monde.
Arruda, 1973. Lecture dans le corps. C'est vrai que c'est lourd, les quartos, quand même. C'est bien, mais c'est lourd. Alors, oui, c'est vrai. Bon, j'y vais quand même. Voir un sexe fut la préoccupation de notre enfance. Pas n'importe quel sexe, pas un sexe innocent et imberbe, mais celui d'une femme, celui qui a vécu et enduré, celui qui s'est fatigué, etc. etc.
Ouais, c'est pas mal.
Ouais. Ah, je suis sûr que vous étiez tellement content de votre incipit quand vous l'avez trouvé. Non,
mais à l'époque, je ne l'ai pas fait exprès, je ne savais même pas que c'était important. Hein. Et c'était vrai d'ailleurs. On monte voir le reste de la bibliothèque. Oui. Parce que ma bibliothèque était éparpillée dans plusieurs maisons et plusieurs pays. Enfin, entre le Maroc et la France.
Ah, mais alors, c'est quoi l'étage ?
Là, c'est l'atelier où je peins.
Ah oui.
Et où j'écris aussi. Ça, c'est le travail. Ça, c'est le lieu de travail.
Ouais, c'est lumineux.
Hein. Là, alors ça, c'est des livres que j'aime. Par exemple, là, vous avez... Le poète Jean-Michel Maulpois, rue des Fleurs. J'adore ce poète et je vais le défendre pour le concours de la poésie.
D'accord.
Ah oui, je dis la vérité.
Oh, il y a des gants de boxe. Vous faites de la boxe ?
Ah oui, parce que je fais du sport deux fois par semaine avec mon coach. Et on termine toujours par 10 minutes de boxe.
Et vous allez sur le ring
alors,
et tout ?
Là, je relis Kierkegaard parce que c'est un philosophe qui m'a beaucoup marqué quand je faisais ma licence et que je préparais mon agrégat de philo, que je n'ai pas pu passer d'ailleurs. Là, vous avez mon livre de chevet. Voilà, il est un peu mal foutu. Adolphe de Benjamin Constant. C'est la première édition de 1800...
De 1830, quelque chose comme ça.
Avec du scotch et tout.
1828, c'est ça. 1828.
Alors, vous nous racontez Adolphe de Benjamin Constant.
C'est une très belle histoire. C'est un jeune homme qui va tomber amoureux d'Eléonore, une femme plus âgée que lui. Et ça va être une histoire de passion au début. Et après, il va la quitter. Elle ne va pas supporter. Ça se termine très mal. Voilà Célan.
Voilà Paul Célan.
Et puis, Gérard de Nerval, Voyage en Orient. Ça, j'ai acheté ça en plus la semaine dernière.
Ah bon?
Oui.
Vous allez chiner comme ça souvent?
Ah oui. Alors ça, Edmond Charleroux, oubliez Palerme. Pourquoi il est là? Parce que je dois faire la préface pour le meilleur des Goncourt. Vous savez que le Figaro a commencé.
Oui.
Alors je fais la préface
pour
de ça.
Pour le classement des Goncourt.
Et j'ai fait la préface aussi de ça. Je suis en train de le relire.
La vie devant soi, Romain Gary.
La vie devant soi.
Qui a fraudé au Goncourt.
Ah ouais, c'est une histoire extraordinaire.
Vous aimeriez ça, qu'il y ait comme ça une supercherie au Goncourt aujourd'hui?
Ça se fait une fois, pas deux.
Non, mais autrement, différemment.
Non, c'est difficile. Et puis, ça, c'est un livre que j'aime beaucoup. C'est de mon ami, le galeriste Pierre Trigano, Une vie pour l'art. Il raconte comment, pendant 50 ans, il a exposé les plus grands peintres du XXe siècle. Et c'est aussi mon galeriste, il m'expose aussi.
Merci beaucoup, Tahar Benjelloun.
Merci à vous.
Retour à Roland-Garros dans le studio européen. Et je rappelle, La couleur des mots, c'est le nouveau livre de Tahar Benjelloun à l'Iconoclaste. Bernard Werber, vous êtes toujours avec nous pour Mémoire d'une fourmi. Vous êtes une des premières bibliothèques que j'ai visitées pour cette émission. Vous m'aviez parlé de Dune, notamment de Frank Herbert, grand classique de la science-fiction. J'étais sûr de le trouver dans votre bibliothèque. Mais vous m'aviez expliqué à l'époque que c'était pas si sûr que ça au départ.
Dune, ça m'a vraiment transformé. Ce que j'attends d'un livre, c'est qu'il transforme le lecteur. C'est pas du tourisme. Vous rentrez pas dans un pays comme ça et vous en sortez bon avec des vagues souvenirs. Là, ce livre m'a changé ma manière de percevoir la pensée. C'est-à-dire, tous les personnages, ils parlent et en même temps, on voit ce qu'ils pensent. Et depuis que j'ai lu ce livre, quand je dialogue, je me dis tout le temps, ok, il me dit ça, mais qu'est-ce qu'il pense? Voilà. Donc c'est ça qui a changé déjà mon rapport aux autres. Et puis ensuite, il y a cette idée que l'eau est la clé des prochains conflits qu'on va avoir. Je crois qu'on ne se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir de l'eau potable et de l'eau dans le robinet et de pouvoir gaspiller cette eau comme on le fait actuellement. Et Dune m'a fait prendre conscience de ça. Donc une conscience écologique et en même temps une conscience psychologique. Mais j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans parce qu'il y a beaucoup de descriptions au début et il y a des mots qui ne sont pas expliqués.
C'est un ami qui vous a un peu forcé,
ouais.
Quoi.
Il me disait, reviens-y. Et j'ai dû mettre 4-5 fois. C'est un peu comme le même rapport que j'ai avec le film 2001, c'est de l'espace. Chaque fois, je me disais, oh, ça a l'air un truc prétentieux, fait pour les prises de tête, pour les intellos. Et j'ai l'impression que ça correspond à rien. Et puis, tout d'un coup, il y a le déclic. On se dit, attends, le mec, il a compris quelque chose que je n'ai pas compris. Et là, je suis à l'école, je suis en train d'apprendre. Et c'est ce que j'ai ressenti avec 2001, c'est de l'espace, de Kubrick. Et c'est ce que j'ai ressenti avec Dune. C'est une pensée en avance sur le futur.
La voix est libre.
Nicolas Carreau.
Retour à Roland-Garros pour La Voix est libre dans le studio d'Europe 1 Radio Partenaire. Mais on quitte la terre battue pour le coup droit de Christophe Daniel. Librairie La 25e Heure à Paris. Allons-y.
Bonjour Christophe Daniel.
Bonjour Nicolas.
Deux coups de cœur aujourd'hui, et notamment un d'un auteur que j'adore, La cartographie des nuages, Claude Atlas, c'était lui, David Mitchell, c'était un roman avant d'être le film. Et il publie son nouveau roman qui s'appelle Utopia Avenue aux éditions de l'Olivier.
Oui. Alors David Mitchell, c'est cet écrivain anglais qui est, pour moi, je trouve surdoué, parce que ça doit être son 7e roman, je pense. Et il peut toucher aux romans de science-fiction, aux romans d'horreur, aux romans historiques, et toujours avec un talent énorme. Là, avec Utopia Avenue, en fait, il va nous raconter l'histoire d'un groupe qui s'appelle Utopia Avenue, un groupe de rock. On est à Londres en 1967, c'est les Swinging Sixties.
Et que vous avez bien connu.
Bah oui, bah, oui vous pensez. Et donc ce groupe qui a été créé par un manager producteur incroyable aussi, un personnage du roman incroyable, va rassembler quatre musiciens, pardon, et il va nous faire vivre cette époque vraiment flamboyante de la musique rock, et avec un talent de conteur énorme. Alors Utopia Avenue, c'est le nom du groupe, ce groupe est complètement fictif, mais par contre on va croiser Syd Barrett, Brian Jones, Leonard Cohen, David Bowie, enfin voilà, il y a ce mélange entre le réel et la fiction. C'est 750 pages, mais on ne le lâche pas du début à la fin.
Et il n'y a pas du tout de science-fiction dans celui-ci, attention.
Non. Il n'y a pas du tout de science-fiction, mais comme David Mitchell aime bien, dans son œuvre, aussi hétéroclite qu'elle soit, faire se rencontrer des personnages qui sont déjà apparus dans ses précédents romans, là, ceux qui connaissent bien les romans de Mitchell rencontreront des personnages qu'ils ont déjà croisés ailleurs.
Excellent romancier David Mitchell, traduit par un excellent traducteur Nicolas Richard. Utopia Avenue, c'était aux éditions de l'Olivier. Puis alors il y en a un deuxième, mais vous m'avez dit j'en ai plus. Mais alors très gentiment, vous m'avez imprimé la fiche de présentation pour que j'ai quelque chose à me mettre sous les yeux.
Oui, j'en ai plus parce que je le conseille à tout le monde et du coup j'ai parsu mon réassort. Alors là, on ne va pas parler de rock'n'roll, mais de football. Les fantômes de Séville, voilà, c'est un petit bonheur, mais qui nous rappelle surtout un grand malheur.
France-Allemagne 82.
Bah voilà, ça, vous aussi vous avez été traumatisé par ce match.
Bah moi j'aime pas le foot, mais mais j'ai mon grand maître Pierre-Louis Basse, légende d'Europe 1, qui avait publié le livre Séville 82 sur ce match, et je sais que c'est un match très très important, mais j'ai jamais vu.
Ah bah oui, c'est un drame national, parce que la France a été éliminée donc en demi-finale de la Coupe du Monde en 82 par l'Allemagne, évidemment, et c'est un match avec une dramaturgie incroyable, et là Didier Tronchet, qui est un obsessionnel du football et surtout de ce match-là qui regarde en boucle, va faire une découverte énorme. À la 50e minute, il se passe quelque chose. Et il se passe quelque chose, je ne vais pas vous dire ce qui se passe, mais il est persuadé que c'est ce qui a fait basculer le destin de l'équipe de France. Donc il va partir avec son copain Fred, qui est journaliste dans un quotidien sportif, pour rencontrer tous les acteurs principaux de ce match. Alors, on y croise Michel Hidalgo, Michel Platini, Schumacher, le fameux gardien de l'équipe d'Allemagne qui nous a fait tant de mal. Et voilà, c'est drôlissime. Et en même temps, ça remue des souvenirs pas très agréables. Mais voilà, c'est surtout aussi... Alors, évidemment, on parle de football, mais ça va jusqu'à une quête de soi pour l'auteur de ce livre qu'est Didier Tronchet.
C'est un roman.
C'est un roman, ou un roman-récit. Ouais. Et Didier Tronchet, en fait, on le connaît surtout pour ses BD, parce que c'est lui qui a créé Jean-Claude Tergal, Raymond Calbut, autant de héros inoubliables.
Vous l'avez vu, vous, France-Allemagne 82?
Ah oui, je peux vous dire que je l'ai vu et ça a été une soirée terrible. Je n'en suis toujours pas remis.
Les fantômes de Séville, donc Didier Tronchet, puis on a dit Utopia Avenue. Attends, on n'a pas dit l'éditeur. Les fantômes de Séville, oui. De Didier Tronchet, c'est à la Fosse aux Ours. Et puis Utopia Avenue, David Mitchell, aux éditions de l'Olivier, traduit par Nicolas Richard. Merci beaucoup, Christophe.
Merci, Nicolas.
Retour dans le studio de Roland Garros avec Bernard Werber, toujours, qui publie Mémoire d'une fourmi, et Héloïse Goy, qui nous a rejoint. Bonjour Héloïse.
Bonjour Nicolas, bonjour Bernard Werber.
Bonjour. Voilà, je présente Bernard Werber. Vous jouez au tennis, vous?
Non, mais j'aime bien le regarder.
Ah, d'accord.
Bah, c'est déjà ça, non?
De quoi vous nous parlez aujourd'hui?
Aujourd'hui, alors vous le savez, c'est la fête des pères qui approche, c'est le 19 juin. Et du coup, j'ai décidé de vous parler de papa aujourd'hui, pas du mien, hein, même si je l'aime beaucoup, mais de papa de manière générale, de paternité. Parce que comme dirait le chanteur Stromae...
Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas.
Et c'est bien pour ça que je vous parle de ce livre « Devenir papa pour les nuls » de Benjamin Muller. Et parce qu'il part du principe qu'on ne naît pas père, mais qu'on le devient, ce journaliste que vous connaissez de l'émission « Elle est maternelle » sur France 2 s'est entouré d'experts, de sages-femmes, de psychologues, de médecins généralistes pour écrire cet ouvrage et pour tenter de percer les nombreux secrets de la paternité. Alors j'ai appris plein de choses dans ce livre et je ne suis pas papa, comme vous imaginez, mais du coup, vous l'êtes tous les deux, je crois. Alors j'ai eu envie de tester vos connaissances de papa. Quel âge ont vos enfants déjà ?
6 ans. J'en ai un de 27, un de 10 et une de 4.
Ah, donc c'est récent.
Pour dire qu'il y a de l'entraînement chez Bernard.
Alors, je suis sûre que vous êtes déjà de très bons papas, mais quelques conseils ne font jamais de mal. On commence avec une question autour de la grossesse, qui après tout concerne aussi les papas ou les futurs papas qui attendent un enfant. Messieurs, est-ce que vous savez ce qu'est précisément la couvade ?
Oui, c'est oui. Quand on prend du poids, quand le père prend du poids.
C'est quand le papa subit lui aussi l'expérience comme si c'est lui qui la vivait.
Exactement, parce que ça ne concerne pas que la prise de poids. La couvade, qu'on appelle aussi grossesse fantôme, j'aime beaucoup ce terme, désigne en fait tous les mêmes désagréments que le futur papa partage avec sa conjointe enceinte. C'est ce que vous disiez, Bernard Werber. C'est une anticipation psychique, mais aussi physique. Et ça peut se traduire, comme la maman, par des nausées matinales, des douleurs lombaires ou des insomnies.
Ça doit vous passionner, Bernard Werber. C'est mon sujet, ça.
Donc, ouais, non, c'est étonnant que voir de projection. Mais enfin, la seule différence, c'est que nous, on va pas pouvoir donner la vie.
Eh ben, et ça nous manquera toujours. Compenser. Et j'ai trouvé ça très mignon aussi. La couvade peut aussi se traduire par une obsession irrépressible du papa à préparer la chambre, le nid de l'enfant à venir. Un peu comme les oiseaux, je crois. Mm-hmm. C'est les mâles aussi.
Oui. Un peu une manière de tirer la couverture à soi, quand même, parce que
légèrement.
En vrai, on souffre quand même largement moins, quoi.
Ah, j'imagine, oui. Donc,
c'est limite, en fait. Faut presque le cacher, je pense.
Oui, mais tous ces symptômes prédisent un attachement solide au bébé à venir et un investissement d'accord. concret dans les tâches à partager avec sa conjointe. C'est donc plutôt bon signe. On continue avec des petits conseils qui concernent le bébé, les mamans et les papas fatigués. Est-ce que vous savez pourquoi les bébés ont tendance à beaucoup, beaucoup pleurer le soir venu? Et surtout, comment est-ce qu'on peut les calmer,
Bernard? Alors, pour les calmer... Du chloroforme, un Valium dans le biberon.
Ça marche très bien, ça a marché avec vos enfants, j'imagine.
Et puis accessoirement, une petite histoire bien ennuyeuse qui finit par le faire dormir et bâiller.
Alors pourquoi ?
Eh bien, en fait, les bébés ont tendance à pousser des cris inconsolables de 20h à minuit, ce qu'on appelle la période des pleurs du soir. C'est en fait le moment où ils relâchent, ils évacuent la pression de la journée, un peu comme nous, sauf qu'eux, ils n'ont pas une journée de boulot avant nous.
Et nous, on n'ose pas pleurer, mais peut-être qu'on aura envie de faire c'est pareil. Hein.
Peut-être qu'eux anticipent leur vie d'après, du coup, ils lâchent tout de suite, comme ça, c'est fait.
C'est bon pour les poumons, peut-être aussi, ça libère la... Après du enchanteur.
Alors, dans les conseils, gardez son calme et surtout gardez à l'esprit qu'il n'y a pas de caprice chez le jeune enfant, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il ne faut donc pas le laisser tout seul dans sa chambre en train de pleurer. Il ne faut pas désespérer, même si le bébé se calme pas, malgré les berceuses, malgré les biberons, les câlins. Le livre conseille de parler à l'enfant d'une voix calme. Vous pouvez même chantonner pour créer un climat favorable. Le ton de la voix est très important pour le bébé. Je suis sûre que vous le faites très bien, Nicolas, chantonner.
Oui, absolument. Ouais. C'est quand même classique. Hein.
Et vous pouvez aussi faire du pot à pot pour l'apaiser. Ça, ce n'est pas réservé à la maman qui allait. C'est aussi important que le papa fasse du pot à pot avec son bébé. Et puis, il faut savoir que les professionnels de santé considèrent comme excessifs et anormaux des pleurs inconsolables qui dépassent 3 heures par jour de façon régulière. Ça va vite, hein, 3 heures par jour. Et là, ça veut dire que le bébé a sûrement un problème et qu'il faut éventuellement consulter. Alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails de tout ce livre qui fait quasiment 500 pages.
Et ça, c'est intéressant, pardon. C'est toujours un peu sur le fil quand on se dit à quel moment c'est un problème, il faut consulter, à quel moment il faut rester calme et c'est normal, c'est un bébé. Et
c'est pour ça, eux disent 3 heures par jour, dans la journée, de manière régulière. Bon, après, c'est difficile de chronométrer les pleurs du bébé, peut-être. Donc, je vous disais, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais ce qui est chouette aussi avec ce livre, c'est qu'il donne des conseils aux papas 2.0. Vous savez, les papas modernes comme vous, hein, j'en suis sûre, qui veulent s'occuper des enfants au moins autant que leur conjointe. En tout cas, c'était l'intention de Benjamin Muller, l'auteur de ce livre.
Ce que je voulais absolument qu'il se ressente dans ce livre, c'est à quel point les mentalités sont en train d'évoluer. Je pense qu'on ne peut plus écrire des livres adressés aux futurs pères sans parler en long, en large et en travers de l'égalité du partage des tâches ménagères, de la charge mentale, mais aussi de toute la libération de la parole qui a pu accompagner le mouvement MeToo. Dans Devenir papa pour les nuls, il fallait aborder tous ces sujets-là, ne serait-ce que pour aider les parents à donner des billes à leurs enfants pour apprendre comment se comporter, comment prendre soin de son corps, comment se préserver du monde qui nous entoure.
Devenir papa pour les nuls, c'est chez First. Il s'adresse aux futurs papas, aux jeunes papas et aux vieux papas aussi, pourquoi pas. Mm-hmm. Mais il s'adresse bien sûr aussi aux mamans qui, j'en suis sûre, y apprendront plein de choses passionnantes.
Signé Benjamin Muller. Bernard Werber, je me demandais, votre fils, votre aîné, il est écrivain.
Oui.
Est-ce que il a lu Les fourmis, à quel âge et comment? Est-ce qu'il vous a fait un commentaire tout de suite ou pas? En cachette, vous lui avez donné?
Alors, c'est le principe, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Je crois qu'il a dû lire mon livre très tard. Il a commencé par Harry Potter, comme tous les enfants, et puis j'ai dû arriver vraiment en fin de météorite. Mon fils a tout d'un coup une fringale de lecture et d'écriture qui est arrivée vers, je dirais, 16-17 ans. Mais avant, c'était un lecteur... assez sporadique et il avait pas compris que ça pouvait être vraiment génial. Maintenant, il lit énormément, il écrit énormément surtout.
Il faut pas se forcer de toute façon.
Oui, il y a un temps. On a tous envie que nos enfants lisent rapidement, mais il ne faut pas que ça soit associé à on fait ça pour faire plaisir à papa, précisément, ou ça devient un devoir. Il faut vraiment que leur expliquer que lire, c'est un plaisir. Et si un livre ne marche pas, il faut passer à un autre livre. Ce n'est pas grave.
C'est un plaisir de lire Mémoire d'une fourmi, votre dernier livre chez Albin Michel. Merci beaucoup Bernard.
Merci à vous.
C'était la dernière page de cette émission. Merci aussi à Agnès Vaudin pour son aide, à Boris Pachinski, l'homme aux doigts de fée, et à Grégory Delpeuch pour la programmation musicale, et à Julien Or qui s'occupe du studio d'Europe 1 à Roland-Garros. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.